Salut à toutes et à tous, c'est Léa, chroniqueuse de Radio Schumann, la web radio du lycée Robert Schumann à Metz. Actuellement, nous nous trouvons sur la planète Terre bien sûr, mais plus précisément au cinéma Le Paris à Forbach. Et non pas à Paris, pourquoi ce cinéma s'appelle pas Le Forbach, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde pour le situer. Nous sommes là pour le festival du film d'actualité à l'école, mais vous pouvez aussi nous écouter sur la fréquence 103.4. Je suis en compagnie de Gabin, qui est aussi chroniqueur à Radio Schumann, et nous entamons ici la dernière interview de la matinée. Nos invités ici présents sont des youtubeurs français. Donc je veux un tonnerre d'applaudissements pour Quark de la chaîne Mycelium et aussi pour notre invité semi-surprise parce que lui il était prévenu, nous un peu moins, Astronogui. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Ah bah c'est toi l'invité officiel, alors c'est toi qui commence.
D'accord, alors Yurg à tous, donc moi je suis Quark, j'ai une petite chaîne de zététique, zététique, esprit critique, c'est la même chose, qui parle en fait des arguments moisis pour aider les gens à faire le tri dans les informations qu'ils reçoivent en permanence, que ce soit à un apéro, que ce soit à une discussion informelle ou à la télé, et qu'ils soient capables de mieux trier pour garder que l'essentiel et surtout ce qui a le plus de chances d'être fiable.
Et moi, bah, je suis astronogique, je parle d'astronomie et je dis des gros mots.
Merci beaucoup à vous deux. Maintenant que vous en savez un peu plus sur nos invités, Gabin va vous résumer de façon assez brève la vidéo de Mycelium dont il va être question aujourd'hui.
Merci Léa pour cette introduction. Donc la vidéo de Mycelium se centre sur la démystification du compteur Linky. Vous savez, ce compteur électrique nouvellement mis en place par EDF, entre autres, hein, et qui transmet directement votre consommation électrique à l'entreprise. Donc, de nombreuses rumeurs tournent autour de ce compteur, notamment à cause de la transmission en direct de vos relevés et sur les moyens de transmission. Donc, mettre fin à ces rumeurs, c'est justement l'objectif de cette vidéo, mais comme souvent sur un ton humoristique, pour pas qu'on s'ennuie, quoi. Donc, bien que la vidéo soit très simple pour que à peu près tout le monde puisse la regarder, on a quand même quelques questions à poser. Donc pour commencer, tous les deux, hein, pourquoi vous avez créé une chaîne YouTube à la base ?
Encore une fois, hein, c'est toi l'invité officiel, c'est
d'accord,
toi qui
d'accord,
commence.
Hein. Je vais commencer maintenant, je ne vais plus attendre que tu prennes la parole ou pas. À l'origine, j'ai fait des études à Grenoble. J'ai eu comme professeur de zététique Richard Monvoisin, qui depuis, pendant que je faisais mon cursus, est devenu docteur de zététique. Enfin, pas exactement, c'est docteur en didactique de l'esprit critique.
Donc c'était ton prof et ton voisin, c'est ça ?
Non. et donc en fait, il était excellent dans sa manière de présenter les choses. Et surtout, il expliquait que finalement, le problème dans tout ce qui paraît ésotérique, voire pseudo-scientifique, c'est pas forcément l'objet, mais la manière de l'interpréter. À savoir que quand on nous présente quelque chose comme étant des ovnis, comme étant des fantômes, finalement, il est bon de se questionner sur qu'est-ce qu'on a vraiment observé, quels sont les phénomènes qu'on a vus. Et est-ce qu'on peut pas rattacher ces phénomènes à autre chose ? Et finalement, moi, depuis tout jeune, je me posais des questions, genre, mais qu'est-ce que les fantômes, comment ça marche et tout ? J'étais très curieux parce que j'étais abreuvé d'émissions de télé et d'émissions de plein de choses qui racontaient un peu n'importe quoi de temps en temps. Et finalement, là, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui, au lieu de m'expliquer comment fonctionne un fantôme, comment qu'est-ce qu'un ovni, tout ça, il expliquait qu'on avait peut-être mal compris, mal vu l'information et qu'on pouvait réinterpréter l'information différemment et que finalement c'était explicable mais différemment et ça j'ai trouvé ça vraiment excellent parce que moi ça me donnait des explications que je n'avais pas, que je cherchais depuis longtemps et avec ces explications ce que j'ai décidé de faire, je me suis rendu compte que j'aimais bien en parler avec mes amis, je me suis dit mais pourquoi ne pas en parler à tout le monde en même temps et du coup avec une chaîne YouTube moi je peux parler de ça. Et plus précisément, je me suis rendu compte que faire du fact-checking, vérifier sur son smartphone si quelque chose est vrai ou pas, c'est compliqué, on le fait pas. On le fait pas quand on discute. à la place, ce qu'on a appris pendant le cours de zététique, c'est que il y a des arguments qui sont fallacieux, qui sont faux, en fait, faux au sens où on ne peut pas déterminer si l'information est vraie ou pas. Et donc, ces arguments, on peut les reconnaître. Il y a des méthodes pour les reconnaître et les identifier. Et à partir du moment où quelqu'un utilise ces faux arguments pour s'exprimer, alors peut-être que ce qu'il dit est faux. Peut-être. Et parfois, c'est même souvent. Donc, à partir du moment où ces arguments sont fallacieux, il faut mettre de côté l'information et ne pas trop s'y attarder, se dire « je chercherai plus tard » ou « peut-être que j'aurai une autre information contradictoire, mais je vais éviter de prendre ça pour acquis parce que potentiellement, c'est pas juste. Donc, j'ai pas envie de perdre mon temps à apprendre des choses fausses. »
Et attends, je prends la pause pour la photo en fait.
C'est pas très radiophonique.
Alors, à la base, moi je me destinais pas vraiment à faire de l'esprit critique. Je voulais parler d'un sujet qui me plaît, entre autres, c'était l'astronomie. Le problème, c'est que l'astronomie, c'est quand même quelque chose qui est nimbé de mystère. Et le problème avec le mystère, c'est que c'est un terreau fertile pour toutes les théories du complot, et puis entre autres, les ovnis, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on a même des aberrations comme la Terre plate. Je vais vous dire franchement, la Terre plate, j'ai découvert ça en 2015. Et en 2015, c'était un truc qu'on s'échangeait entre potes, genre « Eh, regarde, il y a un groupe Facebook, il y a 10 pelés qui croient que la Terre est plate. » Et du coup, on allait voir et on se moquait d'eux. Mais c'était ça, à l'époque, la Terre plate. Et ça a pris une ampleur que j'imaginais pas. Mais pourquoi ? Parce que finalement, comme le disent les gens qui croient que la Terre est plate, je suis jamais allé vérifier par moi-même. Et c'est vrai que si on en reste là, la Terre pourrait être plate. La vérité, c'est que si on creuse un petit peu, si on cherche l'information, on peut trouver des choses, mais le grand public, il s'intéresse pas forcément à ce genre de questions, l'astronomie, la mécanique spatiale, enfin des trucs. Bon. Du coup, ce qui se passe, c'est que les gens qui veulent raconter des conneries ont potentiellement un public qui ne sait pas si c'est vrai ou pas et donc qui est enclin à croire. C'est vrai pour le complot Apollo, par exemple, il y a énormément de gens. Vous leur parlez de la Lune, ils vont vous dire « Non, mais tu crois pas vraiment qu'on est allé sur la Lune ?» Ça, c'est une phrase que j'entends régulièrement. Parce que les gens qui, ne s'intéressent pas au sujet, c'est pas un reproche, hein, on peut pas s'intéresser à tout. Les gens qui ne s'intéressent pas à ce sujet ne savent pas si c'est vrai ou pas et sont sensibles à ces sujets de merde. Et moi, à la base, je voulais juste parler d'astronomie. Mais je me suis retrouvé confronté à tellement de gens qui soutenaient ces thèses-là que je me suis senti obligé d'en parler et de remettre un peu les choses au point, finalement. D'expliquer pourquoi, si c'est vrai, et pourquoi, si on le sait, la Terre n'est pas plate, on est allé sur la Lune, etc. etc. Donc, la notion d'esprit critique est arrivée un petit peu... par hasard. Voilà.
Alors vous avez établi un ordre pour répondre à vos questions, mais juste pour vous embêter, je vais tout chambouler en vous demandant pourquoi AstronoGeek.
C'est-à-dire pourquoi AstronoGeek?
Pourquoi vous avez choisi ce pseudo pour faire vos vidéos YouTube?
Parce que je parle d'astronomie et c'est des trucs de geek. Du coup, AstronoGeek, pour le jeu de mots avec astronomique. Je sais plus comment je l'ai trouvé, mais je sais que j'ai pas dû mettre très longtemps. Hein.
Alors, et vous, pourquoi Mycelium et pourquoi Quark? Parce que c'est quand même un enchaînement assez incroyable de consonnes sans aucune voyelle.
Oui, alors il y a deux manières de l'écrire, hein. Q-A-R-K, ça marche aussi. Et le problème, c'est que Quark, quand on cherche sur Internet, c'est une particule élémentaire qui constitue le proton et le neutron, enfin tous les nucléons, mais aussi les mesons quand ils sont par deux. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Je suis pas spécialiste, hein. C'est juste que je suis passionné, j'aime bien, mais j'ignore énormément de choses. Et donc Quark, en fait, c'est un pseudo que j'ai depuis que je suis au collège, où à cette époque justement j'ai découvert, enfin je regardais des émissions de vulgarisation scientifique et qui expliquaient que les quarks étaient la plus petite particule élémentaire qu'on était capable d'identifier, et moi je m'identifiais bien à ça par mon esprit de contradiction. Ouais, je trouvais que j'étais particulièrement un quark.
C'est que les auditeurs le voient pas, mais le bonhomme il est énorme.
Je suis un petit peu grand, voilà, une tête de plus en moyenne que tout le monde. Et donc voilà, déjà au collège je faisais une tête de plus, les profs disaient je veux voir une tête, enfin deux avec quark. Et donc j'avais choisi ce pseudo-là à l'époque. Et pourquoi Mycelium? Ça n'a rien à voir. C'est parce que les cours de zététique que j'ai suivis avec Richard, mon voisin, lui, il avait tendance à appeler les arguments fallacieux des arguments moisis. Parce que c'est des arguments, ils sont moisis, ils ne servent à rien, ils puent. Et donc les arguments moisis, j'ai voulu un jeu de mots avec moisis, donc j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait comme nom de domaine et comme chaîne YouTube de disponible. Et Mycelium, ça fait un peu scientifique, d'ailleurs c'est le nom scientifique de la moisissure. C'est le réseau qui est dans la Terre qui donne les champignons, en fait, le mycélium. Et pour moi, ça représentait bien cette idée d'arguments qui s'infiltrent dans l'esprit et qui viennent pourrir les pensées, qui viennent convaincre, mais avec de fausses raisons. En fait, ça, pour moi, je vois le mycélium comme, au point de vue argumentatif, des idées qui s'imprègnent et qui pénètrent le cerveau en profondeur et qui gangrènent toute la pensée. Et c'est pour ça que je trouvais, enfin, c'est une métaphore par rapport aux arguments moisis.
Sur votre travail sur YouTube, je me demandais, est-ce que vous travaillez seul à l'écriture ou au montage des vidéos, ou est-ce que vous avez des gens pour vous aider ?
Oui et non. Alors, à l'écriture, je travaille dans un premier temps seul. Je cherche mes sujets, je me renseigne, je me documente. Ensuite, je vais faire relire, donc principalement par Max, qui est mon acolyte qui fait la science perfuse dans mes vidéos, qui lui est pas scientifique non plus, mais c'est un ingénieur très talentueux et qui est très très cultivé. Et je me repose sur lui pour identifier rapidement les problèmes. Des fois, je dis des choses, enfin, j'écris des choses qui sont pas tout à fait justes. Et lui, il me dit attention, là, tu peux pas écrire ça, c'est pas bon. Et je me documente davantage et ensuite, je peux me corriger. Ensuite, bah, pour tout ce qui est la technique, à savoir l'audio, la vidéo, c'est moi qui le fais tout seul. Et ensuite, le montage, c'est moi qui le fais tout seul. Et ensuite, j'ai mon, on va dire, producteur, c'est le gars qui m'a donné de l'argent pour acheter la caméra et la lumière, qui lui, en fait, va s'occuper de toute la partie orthographe, parce que malheureusement, je dois le reconnaître, je suis très 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 mauvais en orthographe. Donc en fait, il s'occupe de tous les sous-titres, toutes mes vidéos sont sous-titrées, c'est lui qui fait intégralement tous les sous-titres à la main, c'est pas de la génération automatique, et c'est lui qui corrige toutes mes interventions sur YouTube, sur Facebook, tous mes commentaires. Je les rédige, je les mets dans un fichier, il les corrige, je publie la correction. Donc il fait un travail énorme, mais c'est un travail de fourmi et c'est un travail invisible, personne ne le voit. Et donc après, bah, pour le reste, c'est ce que j'ai dit.
En ce qui me concerne, je travaille principalement seul, je dirais à 80... Ah, je vais même pas chiffrer, c'est pas la peine. J'écris seul, je tourne, je monte, je fais tout seul, à un détail près. Si je sens que le sujet est un peu trop complexe pour moi, je fais relire par un membre du Café des Sciences ou un collègue dont je sais que c'est le domaine, etc. Mais sinon, j'aime travailler seul, en fait. Là, pour un projet futur, je me suis entouré de quelques accessoiristes, des trucs qui me font une partie du travail en amont, et ensuite je travaillerai seul. Mais sinon, je passe mes journées globalement tout seul dans mon petit studio. Mais en fait, je préfère travailler comme ça. Je travaille à mon rythme.
On voulait se recentrer quand même sur votre vidéo, Quark, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc du coup, vous parlez du compteur Linky, mais pourquoi le compteur Linky ? C'est quelque chose dont on entend tellement parler.
Excuse-moi, il y a beaucoup de bruit, je t'ai pas entendu.
Je demandais pourquoi avoir choisi le compteur Linky comme thème.
Alors, à l'origine, la vidéo a été filmée début 2016. C'est une vidéo très en retard et c'est un duo d'épisodes, à savoir celui qui est déjà sorti sur ma chaîne qui parle des ondes, enfin de l'électricité, des ondes électromagnétiques, et celui-là. Je les ai tournés à peu près en même temps. Et j'avais prévu de le sortir bien avant. Et puis ben, je l'ai repoussé, je l'ai laissé traîner, je l'ai perdu, je l'ai retrouvé, je me suis pas motivé, et puis j'ai attendu. Pourquoi le compteur Linky ? Parce que fin 2015, il y a eu la diffusion, enfin le calendrier de déploiement des compteurs qui a été annoncé. Et il y a eu plusieurs personnes qui se sont mis à dire « Oh là là, attention, les compteurs, c'est mortel, c'est dangereux, c'est l'apocalypse, ça va tuer tout le monde, c'est une horreur, c'est catastrophique. » Et ils ont utilisé beaucoup d'arguments moisis. Et c'était des arguments que j'avais pas encore traités pour la plupart dans mes vidéos. Donc je me suis dit « Bah, voilà, ça m'énerve. J'ai un cursus en fait d'électronicien, j'ai fait un bac STI génie électronique et les ondes porteuses, je l'ai étudié. J'ai mis les mains dans l'oscilloscope, j'ai vu les trucs fonctionner. Je vois les circuits électroniques, comment ça marche, je vois comment ça fonctionne l'électricité. En grande partie, bien sûr, il y a sûrement des gens beaucoup plus compétents que moi, mais voir des gens qui s'insurgeaient comme ça sur un compteur, qui paniquaient, mais c'est vraiment de la panique, hein, c'est de la peur-panique, voire même des crises de larmes. Et moi, je me rendais compte qu'il n'y avait vraiment pas de raison de paniquer à ce point-là, que c'était absolument injustifié. Ça m'a énervé que des gens, en fait, accordent de l'importance et de la valeur à ces gens, sans que personne ne vienne les contredire et leur dire « Non, il n'y a pas de quoi paniquer ». Et donc, bah, ça aurait dû sortir bien avant cette vidéo, et c'était pour contrebalancer tous les gens qui sont contre le compteur Linky pour de mauvaises raisons. Et c'est encore vrai, en fait, il y a toujours des faits d'actualité. Il y a encore un mois, il y a eu un jugement qui a été prononcé au sujet du compteur. Alors, je crois que c'était dans le sud de la France, sud-ouest, pardon. Bon, je me rappelle plus exactement le lieu, mais en tout cas, ça continue de faire parler, et les gens continuent, pour une certaine partie de la population, d'être paniqués sans raison pour le compteur. Et donc pour les gens qui ne savent pas quoi en penser, bah je fais cette vidéo pour qu'ils puissent voir que c'est de mauvais arguments.
Et le problème de mon point de vue, c'est pas le grand public qui, comme je le disais tout à l'heure, ne sait juste pas. Le grand public, il sait pas, il écoute ce qu'on lui dit. Le problème, c'est les gens qui, du haut de leur incompétence et de leur ignorance, se placent comme des figures d'autorité pour affirmer des choses complètement fausses.
Et j'ajouterai un truc, ces gens qui racontent des trucs faux, en fait, ils vont communiquer. Et ils vont pas hésiter à dire ah bah tiens, EDF m'a dit, enfin Enedis maintenant, avant RDF, m'a dit qu'ils allaient installer un nouveau compteur. Et là on a ces gens là qui vont leur dire oh là, malheureux, ne fais surtout pas ça, tu te rends pas compte, il faut que tu refuses et tout. Et les gens ne vont pas comprendre, donc ils vont se renseigner, vont faire mais c'est quoi Linky. Et ils vont tomber sur ce genre de vidéo. Et s'il y a que ce genre de vidéo, ils vont penser que c'est que dangereux. Et s'il y a 10 vidéos qui disent non, c'est pas dangereux, arrêtez de croire n'importe quoi, enfin. C'est probablement pas très dangereux. Les dangers sont extrêmement limités.
Il n'y a pas de raison que ce soit plus dangereux qu'une borne Wi-Fi, un téléphone portable.
Même pas la borne Wi-Fi est pas dans le compteur. Donc c'est pas plus dangereux que le CPL de la box que tout le monde utilise et qui ne fait de mal à personne en fait. Et quand je dis pas à personne, c'est-à-dire qu'aucune étude scientifique n'a mis en évidence que ça faisait du mal à qui que ce soit.
Oui, et puis il faut préciser un truc, c'est pas faute de chercher, parce qu'en général ce qu'on dit dans ces cas-là, c'est ouais mais il n'y a pas d'études sur le sujet. Si, si, il y en a plein.
Énormément.
Il y a des tas de gens extrêmement inquiets de ce genre de choses qui font des études, et à chaque fois, il n'y a pas d'effet notable.
Même pas inquiets, des gens qui veulent juste en savoir plus et qui étudient, et comme ils trouvent rien, ils en ont marre, alors ils arrêtent. Voilà. Et les gens ne trouvent rien. Certains scientifiques qui, à force de ne rien trouver, ont laissé tomber. Et il y a moins de recherches parce que personne ne trouve rien d'intéressant.
Oui. Vu comment on développe chaque question, je sens que cette interview elle est partie pour durer. Hein.
C'est clair.
Et peut-être que ça fera sauter quelques questions aussi.
Peut-être.
Donc je pense que celle-là elle sera un peu plus courte quand même. Mais est-ce que de nombreuses recherches ont été nécessaires du coup pour rétablir la vérité entre guillemets sur le compteur Linky?
Non, tout simplement parce que de nombreuses recherches existaient avant de mettre en place le compteur et en fait on savait que ça présentait pratiquement aucun danger. Pire que ça, en fait, on sait à partir de quelle quantité d'ondes électromagnétiques, d'où que ça vienne, ça commence à avoir des interactions. Et en interaction, c'est-à-dire qu'on peut ressentir un effet. Donc on sait à quelle puissance les ondes commencent à se faire sentir. On divise par 5 cette puissance et on dit que c'est... je crois que c'est 5 ou 10. Et on dit que ça, c'est la norme maximale pour les professionnels. Et pour les particuliers, on multiplie encore cette quantité par 10. On se retrouve avec des chiffres qui sont abracadabra. C'est infinitésimal. C'est-à-dire que le niveau où ce n'est pas dangereux, où c'est juste ressenti, est des centaines de fois plus élevé. Je dis des centaines, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est énormément plus élevé que le niveau accepté. Donc on autorise le compteur à diffuser quelque chose tellement infime qu'on ne sait même pas comment ça pourrait avoir un effet sur le corps qu'on puisse ressentir. Donc oui, non, il y avait des études. Les gens n'ont pas balancé le compteur en disant « Allez, on verra bien, et puis s'il y a des gens qui meurent, peut-être qu'on arrêtera. » Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Imagine juste qu'on fasse la même chose pour l'alcool. Tu vois la dose d'alcool à partir de laquelle tu commences à ressentir un effet. Hein ? Tu la divises par 100...
Et ça tient de l'homéopathie.
Ouais, voilà, ça devient de l'homéopathie. Il y a plus rien. T'imagines, je te donne une micro-goutte d'alcool et je te dis, oula, c'est la dose maximale autorisée.
Les normes sont vachement, vachement restrictives pour les particuliers.
Alors ça, c'est un sujet que vous aviez l'air de maîtriser avant, notamment par vos études, mais en général, combien de temps de préparation pour les recherches pour une vidéo?
Ça dépend. Des fois, ça peut être 2-3 semaines. Parfois, c'est beaucoup plus. Là, par exemple, sur le montage du compteur Linky, il y avait 2-3 choses que je maîtrisais pas parfaitement ou que j'avais pas complètement saisi, donc je me suis re-renseigné et j'ai viré 2-3 petits bouts de ma vidéo finale, enfin pas celle qui va être diffusée ici mais une autre qui sera beaucoup plus longue, beaucoup plus travaillée, où j'ai viré 2-3 bouts parce que je me suis rendu compte que je disais des choses un peu trop approximatives et qui n'étaient pas parfaitement justes. Donc ça peut prendre du temps.
Et vous, pour vos vidéos, du coup, combien de temps de préparation ?
C'est extrêmement variable. Il y a une vidéo qui peut être produite en une journée, une autre qui va prendre un mois. Ça dépend vraiment du sujet, de sa profondeur.
Et juste la recherche ?
Ouais, juste la recherche.
D'accord.
Par exemple, les crop circles, entre les recherches, la production, machin, je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, j'ai passé 3 mois sur ces vidéos.
Oui, j'imagine.
Donc, c'est très variable, je peux pas donner un chiffre.
Juste je demandais les vidéos que vous passez dans la vôtre, c'est des vraies vidéos trouvées sur YouTube?
Ah oui, toujours. C'est ça qui est très important pour moi, et c'est ça qui m'embête, c'est que j'ai peur que les personnes que je diffuse dans les vidéos utilise les algorithmes de strike de YouTube pour faire supprimer ma vidéo. Mais ce que je tiens à montrer, ce sont des vrais gens paniqués et qui expriment de vrais arguments. J'ai pas envie de travestir parce que là, ça serait un argument moisi qu'on appelle l'homme de paille, à savoir, on pourrait me dire que je raconte des arguments qui ne sont pas à ce point-là ce que les gens disent et que du coup, je travestis leur vraie idée. Non, ils ont vraiment dit ça. Je diffuse des vraies vidéos. Les gens, ça existe sur Internet. Il y a des gens qui utilisent des arguments à ce point-là. Mais je me demande si plus tard, je devrais pas refaire le montage, à savoir diffuser une version censurée et refaire moi-même l'enregistrement de ces personnes, mais avec moi, ouais, pour éviter.
Aujourd'hui, c'est un problème sur YouTube, en fait, avec les histoires de l'article 13, tout ça, les histoires de droits d'auteur. YouTube est devenu extrêmement frileux sur le contenu protégé. Et oh putain, c'est calme d'un coup quand les gamins sont partis. Alors, ouais, Google, YouTube est extrêmement frileux avec le contenu qu'on a récupéré de par ailleurs, ne serait-ce qu'un petit extrait, n'importe quoi, et on peut se faire démonétiser, voire supprimer des vidéos pour l'usage de petits extraits comme ça, y compris d'autres vidéos YouTube.
Voire supprimer la chaîne s'il y a plusieurs fois une suppression d'une vidéo.
Et le problème, c'est que nous, on veut pas que ça arrive. Et techniquement, quelqu'un en face dont on utilise un extrait même à but informatif peut faire une demande comme ça de strike. Donc on fait de plus en plus gaffe dans la sphère zététique, dans la sphère sceptique, parce que ouais, je dis zététique, je suis pas trop concerné.
Les deux sont ouais, valides.
Mais c'est un problème aujourd'hui, en fait, de plus vraiment pouvoir dire ce qu'on veut en montrant les choses.
Pour des vidéos qui pourtant sont publiées de façon publique. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on avait été les voler chez les gens.
C'est ça.
Mais c'est quand même assez incroyable, les arguments dans la vidéo que vous mettez dans la vôtre. Même nous, quand on a regardé, on n'est qu'en première au lycée. Et pourtant, on s'est dit que les arguments, c'est quelque chose qui n'est pas possible.
Et bien si, et il y a pire. Si, c'est possible, mais il y a pire encore, ça dépend des sujets. Sur l'archéologie, par exemple, il y a des arguments encore pires qui prétendent que, par exemple, les pyramides ont été fabriquées par des extraterrestres. Et le pire, c'est que, en fait, ça touche tous les milieux. On a l'impression d'être que certains milieux sont immunisés, mais si on prend la mémoire de l'eau, par exemple, le prix Nobel de médecine, si je dis pas de bêtises, qui a découvert le sida, Luc-Antoine Montagnier, donc, qui est une personne qui a reçu un prix Nobel. C'est pas rien, un prix Nobel. C'est-à-dire qu'on a reconnu que c'était un très grand chercheur sur un sujet précis. Il a fait des études complètement biaisées sur la mémoire de l'eau. Il raconte n'importe quoi sur la mémoire de l'eau. Tout le monde, sur un sujet qu'il ne maîtrise pas et qui lui fait peur ou qu'il trouve incroyable, peut se mettre à croire des choses et avoir des arguments qui sont complètement absurdes. Mais ça paraît absurde quand on les analyse. Mais quelqu'un qui ne connaît pas trop le sujet ou quelqu'un qui a oublié le sujet, qui a oublié ses années de collège, de lycée et tout ça, quand il tombe là-dessus, bah, ça lui fait peur et il préfère croire ça plutôt que de se dire que c'est peut-être pas vrai. Parce qu'il y a plus de risques à croire que c'est faux que croire que c'est vrai. Et il faut rappeler à ces gens-là que non, il n'y a pas de risque.
En fait, ce genre de théorie fumeuse est souvent très confortable. Que ce soit les extraterrestres, la vie après la mort, etc., ça rend le monde plus rassurant. Moi, un exemple que j'aime bien, c'est la vie après la mort. Si on considère qu'il n'y a rien après la mort, c'est terrifiant de mourir. Si on considère qu'une fois qu'on est mort, on aura des petites ailes, on ira au paradis, etc.
Ou un volcan de bière aussi. Ou un volcan de bière pour le pastafarisme.
Un volcan de bière pour le pastafarisme, ouais. Ben, ça rend la chose plus acceptable. C'est plus confortable de vivre dans un monde comme ça. Donc on est enclin à croire ce genre de choses. Quand on est malade du cancer et quelqu'un nous dit « J'ai le traitement miracle, regarde, t'es guéri en 2 semaines », on a envie d'y croire. Mais le problème est là, c'est quand on a envie de croire, on se retrouve à se mettre des œillères et refuser les arguments qui sont plus difficiles à accepter et malheureusement plus vrais quand même.
Et moins parfaits aussi.
Et moins parfaits.
Du coup, on se demandait aussi quelles étaient les cibles de vos vidéos, parce que c'est pas... Qui devrait regarder vos vidéos selon vous ?
Tout le monde.
Mes cibles, qui je cible, c'est les personnes indécises, les personnes qui ne savent pas quoi en penser. Les personnes qui entendent ces gens terrorisés, qui utilisent des arguments complètement moisis, qui se disent « mais c'est pas possible, ça peut pas être vrai » ou alors « j'ai peur, qu'est-ce qu'ils racontent » et qui ont envie de chercher plus d'informations. Mes cibles, c'est pas les gens terrorisés, parce que les gens terrorisés, ils sont absolument convaincus, la plupart n'ont pas envie de changer d'opinion, et surtout mes vidéos ne les feront pas changer d'opinion, j'ai pas un discours suffisamment calme et bienveillant. Du moins pour l'instant, j'aimerais bien être un peu plus bienveillant par la suite, mais c'est pas eux qui vont changer d'avis. Par contre, les gens qui ne savent pas quoi en penser, qui se posent des questions, qui font mais qu'est-ce qu'il dit, mais ça a l'air terrible, ça a l'air terrifiant ce compteur Linky, qui je dois croire? Eh bien, eux, s'ils n'ont pas d'informations contradictoires qui leur dit non, ne croyez pas ces énergumènes, ils racontent n'importe quoi, et je vous explique pourquoi ils racontent n'importe quoi, eh bien, ils n'auront pas de raison de mettre en défaut leurs paroles. C'est ces gens-là que je cible, les gens qui ne savent pas, les gens qui vont chercher l'information et qui ont besoin d'avoir un contrepoids. Qui ont besoin de ne pas avoir que des gens terrorisés, mais des gens qui expliquent qu'il n'y a pas de quoi être terrorisé du tout.
Il y a une expression qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et là, bon, non pas que j'ai envie de traiter la moitié des gens d'imbéciles, hein, mais je veux dire, notre cible, c'est les gens qui se posent des questions, mais qui sont prêts à changer d'avis si les arguments qu'on leur donne les convaincent. Il y a toute une catégorie de gens qui entendent nos arguments, ils ont compris que c'était logique, mais ils n'ont juste pas envie d'écouter. Cela, on ne peut rien y faire. Notre cible, c'est les gens qui se remettent eux-mêmes en question, remettent leurs croyances ou leurs certitudes en question.
Bah, pour finir, on va finir sur une note un peu plus légère. On voit dans la certaine vidéo que certains gens pensent que Linky, c'est un nom de chien. Mais est-ce que vous appelleriez votre chien Linky?
Pourquoi pas? Pourquoi pas, si j'avais un chien, je pourrais peut-être l'appeler Linky s'il était tout le temps en train de rapporter un truc, genre pour me connecter à quelque chose, je sais pas. Oui, pourquoi pas, c'est Linky, effectivement, ça peut faire nom de chien, enfin, c'est un peu absurde comme nom, mais bon, on trouve vraiment n'importe quoi hein, en nom de chien, en nom de chat, donc oui, après tout, pourquoi pas.
Oh, moi, le mien, il s'appelle déjà Laika. Enfin, elle s'appelle Laika, donc j'ai pas l'intention
de l'appeler Linky. Hein,
voilà. Linky, Laika,
c'est bah, pas alors, si tu vois, je l'ai appelé Laika exprès pour qu'on me dise « Ah, t'es photographe, tu l'as appelé comme l'appareil photo. »
Ah non, comme le chien qui est parti dans l'espace.
Exactement.
D'accord.
C'est aussi le premier auquel j'aurais pensé. Alors, on a aussi une autre question un peu con pour finir, on aime bien finir en beauté.
C'est mes préférés, moi.
Cette pilosité faciale assez incroyable, la moustache sublime et la barbe, pourquoi?
Ah, tu veux répondre en premier?
Moi, ça me fait chier de me raser le matin, c'est tout.
Alors moi, je galère. Alors, à l'origine, cette moustache, j'ai commencé à la faire en 2012-2013. C'était lorsque la saison, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la saison 3 de HeroCorp est sortie. Et c'était, en l'hommage à Force Mustang, le personnage de HeroCorp qui avait une grosse moustache comme ça, bien viking, et puis je me suis dit avec mes cheveux longs, avec Naté, ça peut être, ça va avec ça va, et à l'origine je la laissais pousser, mais c'était juste pour faire genre c'était pour soutenir la série HeroCorp que j'aimais beaucoup, et c'était pour le personnage de Force Mustang que j'aimais bien dans sa manière de raisonner un peu brutale.
Et alors tu vois, moi tu m'as jamais fait penser à Force Mustang, moi tu me fais plutôt penser à Astérix hein.
Peut-être, mais à l'origine j'ai laissé pousser pour ça, et puis je l'ai quand même essayé de la garder courte parce que sinon ça fait un peu ridicule.
Donc merci de vos réponses. Hein,
Et merci de vos questions.
Exactement. Ça fait plaisir de pouvoir s'exprimer.
Donc on conclut pour cette matinée interview. On reprend cet après-midi vers 13h15. Et pour d'abord Passeur de mémoire, qui est un film créé par le lycée hôtelier de Metz avec leur voyage en Pologne. Ensuite École cherche marraine avec la venue de la star de la chanson française Patricia Cass dans une école de Stiring Wendel. On a aussi Lana qui a un court-métrage sur le harcèlement scolaire, et School Routine qui est un film en anglais.